Donc, Camille Froidevaux-Maitry est philosophe, professeure de sciences politiques et chargée de mission égalité-diversité à l'Université de Reims-Champagne-Ardennes. Elle est l'autrice de plusieurs ouvrages, dont La révolution du féminin, qui a été publiée en 2015 aux éditions Gallimard et plus récemment en 2020 en poche collection. Voilà. Dans cet ouvrage, Camille Froidevaux-Maitry effectue un important travail de synthèse en cherchant à resituer la place des femmes dans l'histoire des idées, en revenant sur de grandes interprétations anthropologiques, psychanalytiques, féministes, avant de penser le féminin selon une perspective phénoménologique. Mais Camille, je ne doute pas que vous allez mieux en parler en adaptant la voix d'un féminisme incarné. L'une de vos interrogations principales est de comprendre comment il a été possible que le sujet du corps des femmes disparaisse autant dans les années 80 à 2010, alors qu'il était au centre des débats féministes dans les années 70. Et depuis le début des années 2010, plus encore depuis MeToo notamment, vous faites en revanche le constat avec d'autres d'un réinvestissement par les femmes de leur corps. Et des sujets, des thématiques corporelles. C'est ce qu'on peut appeler le tournant génital de l'histoire du féminisme. Et cette importance de la prise en compte de l'expérience corporelle dans vos écrits a motivé votre invitation à cette station du laboratoire, qui donc se tient en regard de l'exposition Rituelle, qui réunit plusieurs artistes femmes qui travaillent notamment la performance. Or, on le sait, la performance a été, dans son histoire, en grande partie investie par les femmes, a pu servir de terrain aux revendications féministes. Aujourd'hui, vous proposez de réfléchir à certains gestes émancipateurs, à des pratiques ou des rituels sororaux pouvant permettre aux femmes de réinvestir leur propre corps, de passer de l'individuel au collectif. Voilà, on vous écoute.
Merci beaucoup. Je commence par remercier l'IAC, Marie et Pauline de leur invitation. Je fais le même constat heureux que Jules Falqué hier, à savoir que ça fait vraiment du bien de se voir pour de bon, en chair et en os, même si nos sourires sont masqués, on les voit malgré tout. Et c'est une chose, enfin voilà, c'était parmi les grandes motivations de ma présence ici aujourd'hui. En plus de contribuer effectivement à la réflexion que vous avez entreprise autour de cette question du nous, du commun peut-être, et peut-être au-delà encore du féminisme dans son approche écoféministe. Alors, je suis entrée moi-même en féminisme au tout début des années 2000. Je venais d'être recrutée à l'université, alors que j'étais enceinte de 7 mois, et j'ai commencé mes cours. Mon fils avait quelques semaines. Alors, ces deux événements très attendus l'un et l'autre, évidemment, qui se rejoignaient dans le même moment, mon ravi, et en même temps ont produit en moi une déflagration existentielle qui m'a fait découvrir, en l'éprouvant, cette condition duale qui est devenue celle des femmes occidentales, sujet de droit désormais pleinement légitime dans la sphère sociale et aspirant à exercer toutes les fonctions dans tous les domaines, en même temps qu'individus incarnés, toujours sommés d'assumer l'essentiel des charges liées à leur corps sexuel et maternel. Très honnêtement, pour moi à l'époque, cette dualité n'était pas facile à vivre. Tout le monde autour de moi se réjouissait de ce que tout m'arrive en même temps, mais moi, je m'efforçais, je dois dire à grand-peine, de tenir mes deux rôles, persuadée de le faire mal dans les deux cas. J'ai donc voulu mieux comprendre cette dualité féminine en me lançant dans la lecture des œuvres féministes, et notamment des études de genre qui commençaient de se développer en France. Ce que je repérais assez vite, c'est que le problème qui me préoccupait alors, la condition maternelle, n'était non seulement pas un objet de recherche, mais pas même d'intérêt dans le champ féministe. Ce n'est que plus tard que je serai en mesure d'interpréter cette curieuse absence en l'inscrivant dans le contexte plus large d'une déconsidération de la corporalité féminine au sein du féminisme en général. Elle est selon moi le produit d'une synthèse intellectuelle entre, d'une part, l'œuvre beauvoirienne, telle qu'elle est communément et trop souvent mal interprétée, c'est-à-dire comme une charge en règle contre la matérialité incarnée de la condition féminine, ce que n'est pas seulement, j'y reviendrai. D'autre part, la tradition française de l'universalisme égalitariste qui refuse toute distinction entre des citoyens semblablement libres et égaux. D'autre part encore, le féminisme matérialiste qui fait de la conjugalité, de la maternité et de l'hétérosexualité obligatoire les trois piliers de la domination masculine. Et enfin, les études de genre qui ont entrepris de déconstruire les stéréotypes genrés pour en finir avec la binarité impérative. Le fil rouge qui relie ces écoles de pensée par ailleurs assez hétérogènes, c'est celui de la dévalorisation du corps des femmes en tant que vecteur privilégié de l'oppression des hommes. Alors que les sujets corporels formaient le cœur brûlant de la deuxième vague et circonscrivaient le programme même du féminisme, à savoir débarrasser les femmes de la condition objectivée qui est la leur depuis les origines, ils ont rapidement disparu tant des préoccupations théoriques que des actions menées sur le terrain. Ce n'est pas seulement que ces sujets corporels ont été recouverts par de nouveaux combats, c'est aussi que le corps des femmes a souffert de se trouver systématiquement associé au cadre patriarcal qu'il s'agissait de renverser. Il a été, de ce fait, déconsidéré comme objet de recherche et de lutte. Alors, je vais, à partir de ce constat, développer trois moments, en commençant par creuser cette question de la disparition du corps féminin du champ féministe, pour ensuite montrer que nous vivons, Marie l'a rappelé, un tournant dans l'histoire féministe, celui de la réappropriation de nos corps intimes, ce qui me donnera l'occasion de définir et d'explorer un adjectif et un terme crucial, que ce soit dans mes propres recherches, mais je crois aussi au cœur de l'écoféminisme, qui est l'adjectif féminin. Et puis, dans un troisième moment, je reviendrai sur le lien qu'on peut établir entre l'aliénation corporelle féminine et le problème de la sororité, à savoir les difficultés que les femmes ont à nouer entre elles des liens sororaux quand elles continuent d'être définies comme des corps objectifs. Au début du XXIe siècle, donc, je faisais ce constat de ce que le féminisme avait quasiment disparu du débat public. Si bien peu de femmes alors se déclaraient féministes en l'assumant, c'est-à-dire sans ajouter de « mais », si je ne trouvais pas d'autrice qui m'aiderait à répondre aux questions que je me posais alors, ce n'était pas sans lien avec l'évanouissement de la problématique fondatrice. Au tournant des années 2000, les féministes ne parlaient plus du corps des femmes. Ou alors, lorsqu'elles envisageaient les thématiques corporelles féminines, c'était systématiquement comme fond problématique. Ces thématiques renvoyaient à un corps carcan dont il fallait extirper les femmes. Alors, je ne le déplore pas, puisqu'il est absolument absurde de reprocher aux idées d'exister et de produire des effets, a fortiori quand ces effets sont émancipateurs. Mais je crois qu'il est important de faire ce constat d'une assimilation un peu trop définitive des dimensions incarnées de l'existence féminine à d'insupportables vecteurs de minoration et de soumission. C'est ce dont témoigne notamment le discrédit pérenne qui a frappé l'écoféminisme en France. Comme Jeanne Burkhardt-Boutal l'a montré, les théories et les actions écoféministes n'ont longtemps pas réussi à prendre racine dans un champ où dominaient des féministes qui, je la cite, se sont évertués à dénaturaliser les femmes et la féminité et tiennent généralement la catégorie de nature pour intrinsèquement normative, réactionnaire, dominatrice. Dans les années 90-2000, l'écoféminisme étouffe donc sous le feu de ses critiques articulées autour de quatre chefs d'accusation que Jeanne Burkhardt-Boutal repère: essentialisme, conservatisme, irrationalisme et dépolitisation. J'ajouterais, pour ma part, que l'obsession antinaturaliste, synonyme de détestation corporelle, qui est le fruit de la synthèse intellectuelle que j'évoquais tout à l'heure, constitue le motif le plus puissant, peut-être le plus efficace, de rejet de toutes les approches qui prennent au sérieux et qui valorisent même la corporalité féminine. Le problème, enfin, ce qui m'a posé problème, c'est que, avec ce rejet, ce sont aussi des pans entiers de la vie des femmes, et pas des moindres, qui sont déconsidérés pour leur trop grande proximité avec les présupposés patriarcaux, et qui sont privés aussi, peut-être surtout, d'un traitement féministe autre que systématiquement négatif. Lorsque paraît la révolution du féminin, en 2015, donc cet ouvrage dans lequel je m'essaie à une première approche phénoménologique du corps des femmes, je reçois une fin de non-recevoir féministe très clairement exprimée. S'intéresser, comme je le fais, à la question du souci esthétique en la détachant du prisme de l'aliénation au regard duquel elle est communément interprétée et en proposant de penser la quête esthétique comme un projet de coïncidence à soi. Penser la maternité comme une expérience vécue lors de laquelle les femmes éprouvent une forme positive d'appropriation d'elles-mêmes. Reconsidérer la sphère du foyer dans une perspective valorisante et émancipatrice. En un mot, accorder du crédit et de l'importance à ces dimensions corporelles traditionnellement associées au cadre patriarcal, ce serait tomber du côté différentialiste du féminisme, Ce serait, pire encore, verser dans l'essentialisme. En un mot, ce ne serait n'être pas féministe. En tout cas, les critiques et les reproches que l'on a adressés à l'époque, je dis à l'époque parce que c'était il y a 5 ans seulement, mais ça paraît tellement, tellement loin désormais,